Radio Prague, les informations.
Le Canada ne prévoit pas de réintroduire l'obligation de visa pour les Tchèques. Selon la ministre Vlasta Parkanova, l'accord SOFA sera signé en automne. Petr Rada de Teplice sera le nouvel entraîneur de la sélection de football tchèque. La République tchèque et le Canada vont coopérer en vue de réduire le nombre de demandeurs d'asile dans ce dernier pays. C'est ce qui ressort des conversations qu'ont eues à Prague le chef de la diplomatie tchèque, Karel Schwarzenberg, et la ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, Diana Finley. Celle-ci a également souligné qu'Ottawa n'avait pas l'intention de réintroduire l'obligation de visa pour les citoyens tchèques se rendant au Canada. La ministre tchèque de la Défense, Vlasta Parkanova, a indiqué pendant sa visite à Washington que l'accord sur le déploiement de soldats américains sur la future base radar en Bohême ne sera signé que d'ici à l'automne prochain. Elle a précisé que les questions fiscales devaient encore être réglées avant de pouvoir signer cet accord de type SOFA. Départ ce vendredi matin de 4 patients afghans, 3 enfants et un adulte, qui avaient subi en République tchèque des interventions cardiologiques et orthopédiques, dans le cadre du programme humanitaire MEDEVAC. Selon les médecins, ils sont tous en bonne santé, et c'est au début du mois d'août que les médecins tchèques accueilleront 3 nouveaux malades afghans. Tous les adeptes sont sélectionnés par une équipe d'experts tchèques de l'hôpital de campagne militaire déployé à Kaboul. Les villes de Zlín et de Luhačovice en Moravie du Sud accueilleront dès ce vendredi et jusqu'à dimanche les journées de la culture française qui mettront à l'honneur les arts plastiques et la musique. Au menu de la manifestation figurent également des dégustations de la cuisine française. La deuxième édition des journées culminera dimanche par un programme intitulé Zlín Antibes Zlín. Un festival international d'ensemble folklorique a commencé ce jeudi après-midi sur la place de la Vieille Ville à Prague. 48 ensembles de 17 pays européens participent à cette rencontre hors du commun qui durera 4 jours. La municipalité de la ville se félicite de pouvoir enrichir par ce programme folklorique l'offre culturelle pour les touristes étrangers. Petr Rada, 49 ans, sera l'entraîneur de la sélection de football tchèque. Il remplacera à ce poste Karel Bruckner, sortant. Ces décisions, qui est tombée à l'issue des assises du comité exécutif de l'Union de football tchèque au Morave, est considérée comme surprenante, car on donnait nettement plus de chances au second candidat, Josef Chovanec, qui avait déjà été dans le passé l'entraîneur de l'équipe. Météo ce vendredi, jour de fête des Drahomira, le ciel restera couvert et on peut s'attendre à de nombreuses averses. Il fera assez froid pour la saison. Les températures maximales se situeront entre 19 et 22 degrés. C'était le journal présenté par Alena Gabertova.
Faits et événements en République tchèque. Jarka Gisubelova.
Cap en début d'émission sur le Kosovo où la République tchèque a ouvert mercredi sa représentation diplomatique. L'approvisionnement en pétrole russe ne cesse de décroître. Depuis la semaine dernière, les autorités tchèques ont décidé de réagir pour compenser cette réduction. Le sujet sera développé dans un instant. Nous terminerons à musique la 9e édition des Fêtes d'été de musique ancienne, organisée en collaboration avec le festival français Sablé, s'ouvre ce jeudi à Prague. Tels sont les grands titres de ces faits et événements. Très bonne écoute à toutes et à tous. La République tchèque a ouvert mercredi sa représentation diplomatique au Kosovo. Si elle a mis un peu de temps avant de reconnaître en mai dernier l'indépendance du plus jeune État européen, elle est parmi les 7 premiers pays à ouvrir une ambassade à Pristina. Le ministre kosovar des Affaires étrangères, Skender Hiseni, s'en est félicité lors de l'inauguration des nouveaux locaux en déclarant que Prague avait fait beaucoup pour le Kosovo en apportant son soutien. Un soutien qui a commencé par celui de l'ancien président Václav Havel et qui culmine par l'ouverture de sa représentation. À cette occasion, le vice-ministre tchèque des Affaires étrangères, Tomáš Pojar, a déclaré que pendant la présidence tchèque du Conseil de l'Union européenne, l'ambassade de Pristina jouera un rôle clé pour un rapprochement entre Kosovo et la communauté européenne.
Nous prenons au sérieux cette réalité. C'est pour nous à la fois une préparation à notre présidence de l'Union européenne et de ce fait aussi nous souhaitons être fermement établis dans ce pays.
En rappelant la présence de plus de 500 militaires tchèques au Kosovo, le chef de la diplomatie, Karel Schwarzenberg, a mentionné que les Tchèques à ce pays atteindra près de 4 millions d'euros d'ici à 2011. La Tchéquie n'a toutefois pas ouvert de consulat à Pristina. Les demandeurs de visa sont toujours obligés de contacter le consulat le plus proche établi à Tirana. Or, le trajet Pristina-Tirana prend 10 heures et pour cette raison, Prague a décidé de commencer encore dans le courant des vacances d'été à délivrer les visas d'entrée à Skopje plus proche, affirme Janina Žebíčková, chargée d'affaires tchèques au Kosovo.
On verra quel sera le nombre de demandes de visa au cours des 12 prochains mois, comme on parviendra avec nos collègues de Skopje à régler les formalités. Tout dépendra concrètement de la situation. Il n'est pas exclu que la décision puisse encore être modifiée.
Les diplomates tchèques à Pristina auront pour tâche prioritaire d'assurer la communication entre les gouvernements tchèques et kosovars, d'aider les touristes ainsi que les firmes tchèques souhaitant s'implanter au Kosovo. La principale source d'approvisionnement de la République tchèque en pétrole russe, l'oléoduc Druzhba, ne devrait livrer que 40% du volume habituel aux raffineries tchèques pendant le mois de juillet. Quelles sont les raisons de cette baisse et la pétrochimie tchèque serait-elle menacée par cette situation? Réponse à ces questions avec Alain Slivinski.
Les livraisons de pétrole russe par l'oléoduc Druzhba sont de plus en plus faibles au cours de ce mois de juillet. Le 16 juillet, par exemple, elle ne représentait que 10% du volume habituel en cette saison. D'après le conseiller commercial de l'ambassade russe à Prague, Grigory Sarishvili, Transneft, la société nationale qui gère le fonctionnement de l'oléoduc Druzhba, n'aurait pas fermé les robinets. Les responsables de la baisse du volume de pétrole livré à la Tchéquie seraient des sociétés privées qui préfèrent d'autres clients qui paient plus cher, comme la Turquie par exemple. D'autres informations officielles parlent de problèmes techniques et le diplomate russe a catégoriquement exclu que la baisse des livraisons du pétrole russe pourrait être une réaction à la signature de l'accord tchéco-américain sur la construction d'une base radar américaine en Tchéquie. Les raffineries tchèques n'ont pas été touchées jusqu'à maintenant par le déficit du pétrole russe. Elles utilisent en effet des réserves qui sont créées aux frontières entre la Slovaquie et l'Ukraine, ce qui présente certains avantages économiques. Pourtant, cette fermeture des robinets de l'oléoduc russe est sans précédent, aussi bien pour la Tchéquie que pour les autres pays de l'Union européenne. La société Mero, qui est le propriétaire de la partie tchèque de cet oléoduc et qui est aussi le seul transporteur de pétrole en Tchéquie, a immédiatement réagi. On écoute son directeur général, Jaroslav Pantuček.
Nous sommes capables d'assurer les livraisons de pétrole de la même qualité en utilisant l'oléoduc d'Ingolstadt. Les raffineries tchèques seront donc pleinement approvisionnées au mois d'août. En plus de cela, nous avons réussi à conclure des contrats de livraison avec l'oléoduc IKL qui, à partir du mois de septembre, pourrait entièrement remplacer les livraisons de pétrole russe.
L'oléoduc IKL transporte le pétrole d'Allemagne vers la Tchéquie. Cette matière première arrive en Allemagne par l'oléoduc TAL de la mer Caspienne, du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord. Ce sont de grandes sociétés internationales qui possèdent TAL comme Shell, OMV, Exxon ou Eni. Le gouvernement tchèque serait candidat d'ailleurs à l'achat d'une partie du capital de TAL pour diminuer la dépendance de l'économie tchèque au pétrole russe.
La 9e édition du festival Fête d'été de musique ancienne, c'est du 17 juillet au 17 août prochain. Harmonie des nations, c'est le thème de cette année, choisi par le Collegium Marianum qui l'organise avec à sa tête Jana Semeradova. Le 23 juillet, le festival présentera une intéressante création franco-tchèque intitulée Journal de voyage d'un maître de danse au château de Troya. L'histoire du voyage d'un maître de danse et d'une de ses élèves est le résultat du travail d'écriture de Bastien Ossard. Il sera joué sous la houlette de Gundrum Skamletz, chorégraphe et danseuse. On les écoute de parler du projet au micro de Radio Prague.
Moi, je suis partie des musiques que Jana m'a proposé. Bon, on s'est mis un peu d'accord sur surtout la première et la dernière danse déjà, qui sont des danses d'époque. Donc, c'est des partitions existantes que j'ai donc travaillées, interprétées, qu'on a aussi utilisées dans le sens de l'histoire. Donc, peut-être ce qui serait intéressant de dire, c'est donc des partitions existantes d'époque qui sont écrites dans une notation qui s'appelle la notation selon Feuillet. Qui est une notation où nous avons le parcours dans l'espace, ainsi que les pas qui se trouvent sur ce parcours, et puis toutes les qualités des pas qui sont utilisées sur les différents déplacements. En ce qui concerne plutôt le haut du corps, parce que la partition donc utilise un dessin des déplacements des jambes, l'interprète est plutôt libre. En fait, dans les traités de l'époque, il est écrit que c'est au bon goût de l'interprète d'utiliser effectivement les codes des bras, mais de les utiliser librement. Pour le reste des danses, donc qui se trouvent entre ces deux danses d'époque, c'est donc moi qui ai pris la liberté de les chorégraphier en tenant compte bon, de la musique et puis aussi du scénario donc, qui nous raconte une certaine évolution de cette élève danseuse. Et donc voilà, j'ai essayé non seulement de tenir compte des différents pays et leur atmosphère et éventuelles particularités, mais aussi de la progression du personnage à travers cette heure de voyage avec son maître.
L'idée pour moi, ça a été, comme Gudrun, de suivre les musiques proposées par Jana. La difficulté, ça a été de se dire qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir se dire, se mettre à danser cette danseuse pendant une heure. Et donc, il s'agissait de trouver quelque chose qui soit intemporel et universel. Donc, petit à petit, j'en suis arrivé à me dire qu'il était intéressant peut-être de partir du mystère de l'incarnation, de l'interprétation, montrer à quel point la technique ne suffisait pas pour pouvoir rendre quelque chose sur une scène. Et donc voilà, je suis parti de là, dans un premier temps. Je ne suis pas un auteur du 18e, mais c'est une langue qui se rapproche assez de celle du 18e siècle, en m'inspirant de plusieurs œuvres. Parfois, je suis même allé voir chez des auteurs de théâtre comme Beaumarchais, un peu Molière, et puis des traités de danse que m'avait prêté Gudrun. Et donc, c'est une langue qui se rapproche un peu de celle du 18e, mais qui n'est pas traitée, elle sera pas traitée de façon baroque comme on a pu le faire ici auparavant. C'est la danse qui va prendre vraiment en charge le côté baroque du spectacle avec la musique.
C'était Bastien Ossard et Gudrun Skamletz pour les fêtes d'été de musique ancienne. Et on écoute tout de suite un extrait de musique. Thank you. festival Bohemian Jazz Fest, qui se déroule jusqu'au 19 juillet dans 5 villes tchèques, accueille plusieurs interprètes américains du jazz, John Scofield, Victor Wooten, Mike Stern et Ralph Turner. C'est le guitariste et jazzman d'origine tchèque installé depuis plus de 20 ans aux États-Unis, Rudy Linka, qui les a invités à ce festival qui, après avoir rempli la place de la vieille ville de Prague, s'est déplacé au sud et à l'ouest de la Bohème, à Domažlice, Plzeň, České Budějovice et Prachatice. Le festival se déroule en plein air et l'entrée y est libre. Attirer le plus de public par une dramaturgie de qualité, c'était l'idée de départ de Rudy Linka, qui pense élargir la prochaine 4e édition du festival à d'autres villes encore. C'est sur cette aire de jazz que les fêtes d'événements se referment, mais le programme sur Radio Prague continue.
Miroir de la société, Alena Gebertova.
40 ans se seront écoulés ces jours-ci depuis une première transplantation du cœur dans le pays. Nous allons consacrer la minute suivante à ce sujet. Une première transplantation du cœur dans l'ancienne Tchécoslovaquie a eu lieu dans la capitale slovaque, Bratislava. Elle n'a pas réussi. Le cœur de la patiente n'a fonctionné que pendant 5 heures. Ce n'est que 16 ans plus tard, en 1984, qu'une étape heureuse des greffes du cœur a démarré. On écoute le professeur Jan Pirk de l'IKEM, Institut de médecine clinique et expérimentale de Prague.
En ce qui nous concerne, nous ne nous sommes engagés dans cette voie qu'au moment où le programme des transplantations a été sérieusement préparé. La preuve, un des patients qui a subi la greffe du cœur en 1984 et qui est le numéro 3 est toujours en vie et en bonne santé.
Alena Hotova, 60 ans, est interprète et traductrice du français. C'est à l'âge de 41 ans qu'elle est tombée malade et que les médecins lui ont dit qu'elle allait avoir besoin d'une transplantation du cœur.
Je ne pouvais pas croire mes yeux. Je me disais à l'époque, c'est pas possible, j'ai deux enfants, je ne peux pas subir une opération si risquée. Voilà, à l'époque j'étais choquée, je ne pouvais pas imaginer qu'un jour ça pourrait se produire.
Peu après, l'état de santé de Alena, qui était tout le temps sous surveillance médicale, a commencé à s'améliorer. Elle a pu travailler et vivre plus ou moins normalement. Cela a duré 10 ans. La transplantation a pourtant eu lieu quand Alena avait 51 ans. Elle s'en souvient.
La dernière année avant l'opération, c'était vraiment un martyr. À un moment donné, je me suis retrouvée à l'hôpital après une crise très très grave du cœur. Et j'ai dû attendre, après cette crise, tout était clair. J'étais tellement malade que les médecins ont décidé d'une transplantation. Et comme j'allais mal, et comme j'étais plus ou moins préparée, j'étais prête et j'ai signé cet accord. Je devais attendre longtemps à cette opération, presque un an entier. Et en plus, c'était une deuxième tentative, parce que 15 jours avant cette transplantation, il y a eu une certaine chance d'avoir un donneur. Pendant presque 3 jours, j'ai attendu sans manger, presque sans boire. Bon, mais au bout de 3 jours, il s'était avéré que c'était pas le donneur idéal ou qui convenait. Donc voilà. Au bout de 3 jours de cette incertitude, j'ai recommencé à manger un peu et attendre. Une fois encore, j'étais très impatiente et je priais Dieu pour qu'il me permette cette opération, parce qu'à l'époque, vraiment, au bout d'un an d'attente, j'allais vraiment très mal.
L'opération a eu lieu. Comment tu t'es sentie après? Tu t'en souviens?
Oui. Oui, je me suis sentie très très bien. Bon, je me souviens du moment où on m'a réveillée. C'était 4 heures après que les médecins m'étaient endormis et j'allais très très bien. C'était un moment d'euphorie et il y avait quelqu'un qui voulait me transporter, me prendre dans les bras et me transporter du lieu de l'opération. J'étais tellement en forme, je lui demande, ah, écoutez, je veux pas que vous me preniez dans vos bras, je peux me déplacer toute seule.
Quand est-ce que tu as pu reprendre tes activités professionnelles?
Bon, très vite, très vite. Avant mon opération encore, j'étais dans une chambre toute seule. J'avais mon ordinateur portable avec moi pour supporter toute cette situation d'inquiétude, d'incertitude et d'attente. Voilà, j'en profitais pour traduire, pour continuer à une traduction que j'étais en train de faire. Donc, je continuais lentement, ça va, on ne pouvait pas le faire. Je ne pouvais pas travailler à plein temps, bien sûr, 1-2 heures au maximum par jour, je ne pouvais pas plus. Mais voilà, après l'opération, je suis restée à l'hôpital, mais mon ordinateur était toujours là et je pouvais continuer à cette traduction. Donc on peut dire que j'ai pu reprendre mes activités tout de suite après.
Est-ce que c'est une seconde vie pour toi maintenant?
Bon, une seconde de vie, non. C'est une vie qui continue. Elle continue bien. C'est vrai que ce cœur m'a permis de vivre plus longtemps. Ce cœur m'a permis de continuer mes activités comme si j'avais été en pleine santé. Je n'ai certainement pas changé. Je n'ai pas acquis, grâce à cette opération, une autre identité psychique, morale. Mais pour on ne peut pas s'empêcher, je ne peux pas m'empêcher parfois de penser à cette donneuse, c'était une jeune femme, je sais tout simplement que c'était une femme de 36 ans qui avait décédé par hasard dans un accident de voiture. Et c'est tout ce que je sais. C'est vrai qu'au début, c'est-à-dire les premiers mois, je pensais souvent à elle avec beaucoup de reconnaissance, de gratitude. Mais après un certain temps, je me suis rendu compte que son cœur, désormais, est devenu le mien, et que c'est mon cœur, et voilà, il faut dire que depuis un certain temps, je ne pense pas plus à elle, voilà.
Est-ce que tu as envie de rencontrer souvent d'autres greffés du cœur?
Je les vois régulièrement, parce que j'ai des contrôles à l'hôpital, j'ai des... tous les mois... J'ai des prises de sang, les greffés, je les vois vraiment tous les mois, il faut dire que ça me suffit. j'ai une vie normale et je les vois à chaque fois avec beaucoup de plaisir, c'est vrai, mais grâce à cette opération, je peux vivre une vie normale, je ne ressens vraiment pas besoin de les rencontrer ou de les voir plus souvent.
Le programme en français sur Radio Prague est ainsi terminé. Merci de votre attention, de votre fidélité et à très bientôt sur nos ondes. En attendant, n'oubliez pas que vous retrouverez tous vos sujets sur www.radio.cz.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC on 9...